La construction européenne depuis les années 1990. Comment l'Europe s'est-elle construite entre avancée et crise depuis les années 1990? A. De la CEE à l'Union européenne. 1. La relance de la construction européenne. À partir du milieu des années 1980, la construction européenne est relancée sous l'impulsion du président français François Mitterrand, du chancelier allemand Helmut Kohl et de Jacques Delors, le président de la Commission européenne de 1985 à 1995. En 1986, les dirigeants de la CEE signent l'acte unique qui renforce la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la CEE en supprimant tout contrôle pour les marchandises et les capitaux à partir de 1993. Les droits de douane ont été supprimés en 1968. Les accords de Schengen adoptés en 1985 entrent en vigueur en 1995 et donnent naissance à l'espace Schengen. Il supprime pour les personnes les contrôles aux frontières intérieures et les reporte aux frontières extérieures. La construction du tunnel sous la Manche est décidée par la France et le Royaume-Uni en 1986 par le traité de Canterbury. Inauguré en 1994, il renforce les échanges et les déplacements entre les deux pays et au sein du marché unique. 2. Le traité de Maastricht fonde l'Union européenne, 1992. Signé en février 1992 et entré en vigueur en 1993, le traité de Maastricht constitue le principal tournant dans la construction européenne depuis les traités de Rome de 1957. Le traité prévoit la création d'une union économique et monétaire, UEM, entre les pays membres avec l'instauration par étapes d'une monnaie européenne unique. Il institue une politique étrangère et de sécurité commune, PESC, sans remettre en cause la souveraineté des États puisque les décisions entre les pays membres sur ce sujet sont prises à l'unanimité. Il met aussi en place une coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le traité institue également une citoyenneté européenne. Les citoyens des pays membres obtiennent le droit de voter ou de se présenter aux élections européennes et municipales dans n'importe quel autre pays membre du moment qu'ils y résident. Le traité de Maastricht approfondit la CEE. Comme elle ne se résume plus à sa dimension économique, on lui donne le nom d'Union européenne. 3. Une nouvelle monnaie, l'euro. La mise en place de l'euro, prévue pour le traité de Maastricht, se fait en plusieurs étapes. La Banque centrale européenne, BCE, chargée de la nouvelle monnaie, est créée en 1998 et l'euro est mis en circulation le 1er janvier 2002. La monnaie unique présente de nombreux avantages pour les particuliers et l'économie, suppression des commissions de change, commerce facilité entre les pays de la zone euro, mais aussi des contraintes financières pour les États qui sont dans l'obligation de limiter leur déficit budgétaire et leur endettement, critères de convergence. L'euro est adopté par 12 États qui forment la zone euro, mais le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède préfèrent conserver leur monnaie nationale. B. Le défi de l'élargissement. 1. L'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, 1995-2013. À la suite de l'effondrement du communisme à l'Est en 1989, les pays d'Europe de l'Est deviennent candidats à l'adhésion européenne. Mais ils doivent pour cela respecter certains critères fixés par le sommet européen de Copenhague en 1993. La démocratie et le respect des droits de l'homme, une économie de marché viable, et un certain niveau économique. L'élargissement commence en 1995 par l'adhésion d'anciens pays neutres durant la guerre froide, l'Autriche, la Finlande et la Suède. L'année 2004 est marquée par l'intégration de 10 pays d'un coup, 8 d'entre eux appartenant à l'ancien bloc communiste. Le retard économique de la Roumanie et de la Bulgarie est tel qu'elles ne sont admises qu'en 2007, alors que la Croatie, qui sort de la guerre en ex-Yougoslavie, pose sa candidature plus tard et n'y entre qu'en 2013. En moins de 20 ans, 1995-2013, le nombre d'États membres passe de 12 à 28. D'autres pays frappent à la porte de l'UE. Les négociations avec la Turquie, candidate depuis 1987, sont gelées en 2016, du fait de l'évolution vers l'autoritarisme du régime politique du dirigeant turc Recep Erdogan. Sortis du conflit yougoslave, plusieurs États des Balkans ont récemment posé leur candidature. 2. l'adaptation des institutions. Les institutions européennes ne sont pas prévues pour de si nombreux États et les décisions communautaires, encore souvent prises à l'unanimité, entraînent des blocages. Conçu pour y remédier, le traité constitutionnel de Rome II, ou Constitution européenne, est rejeté par référendum par les Français et les Néerlandais en 2005 et ne peut donc pas être mis en application. À la place, le traité de Lisbonne, signé par les dirigeants européens en 2007 et ratifié cette fois par les parlements nationaux, entre en vigueur en 2009. Il étend le vote à la majorité qualifiée à la plupart des lois communautaires, tout en maintenant le vote à l'unanimité dans les domaines sensibles, politique étrangère, sécurité sociale, fiscalité, culture. Il crée un président de l'Europe et un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Enfin, il accorde plus de pouvoir au Parlement européen, élu au suffrage universel depuis 1979, et permet aux citoyens de faire des propositions de loi. Initiative citoyenne européenne. C. Les remises en question. 1. Les crises de l'Union européenne. La crise de la dette grecque qui débute en 2009 amène les pays de la zone euro à imposer une politique d'austérité à la Grèce qui est très mal supportée par la population mais aussi très critiquée en Europe. L'Union montre son incapacité à gérer l'arrivée massive des réfugiés syriens qui parviennent en Grèce et en Italie en 2015. Elle cherche à répartir les demandeurs d'asile entre les États membres, mais certains refusent de les accueillir. Hongrie, Pologne. 2. De l'euroscepticisme au Brexit. Les crises renforcent l'euroscepticisme. Des partis anti-européens apparaissent durant les années 2000 et se développent. Au Royaume-Uni, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, fait une percée électorale en 2014. En juin 2016, les Britanniques sont conviés par le Parti conservateur au pouvoir à voter par référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La victoire du Leave, retrait, est un coup de tonnerre en Europe où l'on craint des départs en cascade de l'Union européenne. Au terme de longues négociations, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a lieu en janvier 2020, sans qu'on en connaisse encore les conséquences réelles.